Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. Avec cette nouvelle des matelassiers en finale, l'Atlético Madrid jouera la finale de la Ligue des Champions en éliminant le Bayern Munich ce soir. Des Bavarois qui ont remporté leur match sur le score de 2-1, mais une victoire insuffisante. Le match était spectaculaire avec de beaux buts et des pénaltys manqués de chaque côté. Un affrontement physique, technique et tactique dont sortent vainqueurs Diego Simeone et ses hommes. Retour sur cette demi-finale disputée à Munich dans une sacrée ambiance. Et puis il y a eu ça aussi, et c'était la nuit dernière.
It is a fantastic day and a fantastic moment. This is the greatest day in the history of the city.
Un moment magnifique, évidemment, pour les renards bleus sacrés King of Premier League. Les nouveaux rois d'Angleterre jouent à Leicester. Et cette équipe a cette saison accompli l'exploit de remporter le championnat le plus prisé du monde en bousculant le Big Four au terme d'une épopée sur laquelle nous allons revenir. Une épopée avec un guide autrefois moqué comme l'éternel second. Mais aujourd'hui, tout le monde se courbe devant Claudio Ranieri, l'Italien sacré lui aussi King des entraîneurs. Vive Leicester! Mais pour l'instant, donc, place à cette demi-finale retour remportée à la qualification, en tout cas par l'Atlético. Et nous allons en parler avec Patrick Juillard. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Notre camarade de foot 365, foot Africa.
Page Afrique, oui.
Et puis il y a aussi Nabil Djellit. Bonsoir Nabil.
Bonsoir Annie, bonsoir
de
à tous.
Francefootball.fr. Eric Mamrude, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Bonsoir David Finzel. Ben
bonsoir, et puis bonsoir à nos internautes.
Voilà, vous surveillez les internautes et leurs questions éventuelles. Radio Foot, c'est parti. Un but du petit et doué Antoine Griezmann a donc mis fin au rêve des Bavarois et éliminé le Bayern Munich en dépit d'une victoire donc ce soir à l'Arena sur le score de 2-1. Un but marqué à l'aller en fait, hein, plus celui-là, on suffit pour qualifier eh bien des Colchoneros. Eric, une victoire, une qualification à l'arraché et méritée. On s'est battu.
Oui, c'était un match très très intense d'un côté comme de l'autre, entre la meilleure défense de cette Ligue des Champions, l'Atlético qui n'avait pris que 5 buts, et la meilleure attaque, 28 pour le Bayern de Munich jusque-là. Le Bayern de Munich, fidèle à sa réputation, qui a donc marqué 2 buts alors que les Madrilènes restaient sur 6 matchs sans en encaisser un seul. Donc ils ont presque rempli leur contrat, mais Antoine Griezmann était là donc pour marquer le but qui a fait la différence. Antoine Griezmann, 7 buts désormais en Ligue des Champions, son 31e cette saison, toute compétition confondue. Il a la particularité, le Français, d'être le seul joueur à avoir marqué cette saison contre le Barça, contre le Real Madrid et contre le Bayern de Munich. Ce sera la troisième finale de Ligue des Champions pour l'Atlético après 2014 et 1974. Troisième finale en 11 participations. C'est pas mal du tout et c'est le troisième échec consécutif pour le Bayern de Munich de Pep Guardiola.
Et oui, contre une équipe espagnole en plus, hein, qui le bute, ce Pep Guardiola. Patrick, ce match, un match incroyable.
Un match incroyable où on a d'abord vu l'Atlético
à la peine
avec beaucoup de pression et des récupérations hautes et un vrai étouffement pratiqué par le Bayern. On sentait que c'était comme un boa qui essayait d'agripper la proie Atlético et de l'étouffer complètement, de la maintenir dans son camp. Ça a marché sur le plan du jeu, mais malheureusement pas assez sur le plan de l'efficacité, puisque à la fois grâce à Oblak et à cause de leur maladresse, les Bavarois n'ont pas assez concrétisé ce temps fort très long et très puissant. Et ensuite, par un changement tactique, Diego Simeone a densifié le milieu, a élargi un petit peu l'assise de l'équipe en disposant différemment ses hommes, en faisant rentrer Ferreira Carrasco. Et ça a pas mal gêné tactiquement le Bayern. Et à partir de là, le match, les cartes étaient rebattues et le match est un peu rééquilibré. Sachant qu'en plus, le Bayern ne pouvait pas sans doute maintenir pendant 90 minutes la pression qu'ils avaient mise au début. Donc finalement, le résultat, pour moi, sanctionne l'équipe qui a été la plus forte tactiquement sur les deux matchs.
Nabil ?
Moi, je crois qu'elle a surtout, le Bayern a surtout été gêné par le gardien de l'Atlético, Oblak, là, qui a quand même fait 12 arrêts sur, elle a eu 35 tirs, dont seulement 12 cadrés. Et quand on voit la qualité des parades, ne serait-ce que sur le pénalty de Müller, qui est peut-être le tournant de ce match quand le Bayern mène 1-0.
Et que, on va y revenir sur ces pénaltys ratés,
tout
oui.
Tout à fait. Donc après, c'est vrai que l'intensité était incroyable.
Ils sont partis d'entrée. On a cru, en tout cas sur la première mi-temps, que Pep Guardiola avait peut-être trouvé cette clé tactique.
Moi, je trouve qu'il l'a trouvé, la clé tactique. C'est surtout qu'il y a eu des défaillances individuelles. C'est-à-dire que finalement, Ribéry, qu'on n'a pas tellement vu de la saison, qui revenait de blessure, a été le meilleur de son équipe. Mais je trouvais que, par exemple, Douglas Costa, qui est sorti, Müller, qui a raté le pénalty, ça a dû le tracasser pendant tout le match. Et Lewandowski, même s'il est à l'arrivée sur le but de, sur la passe de Vidal qui finalement fait la différence sur le but du Bayern, je trouve que tactiquement, en termes d'opportunités, le Bayern a fait le match qu'il fallait. Mais les joueurs, Lewandowski, Müller et surtout Douglas Costa, n'ont pas été, peut-être, ils étaient à 7,5 sur 10, alors que pour battre une équipe comme l'Atlético, franchement, faut être à 9. Donc, je trouve que c'est plutôt des défaillances individuelles offensives.
Faut être à 11 aussi. Non, je rigole.
Exactement.
Les buteurs de la soirée, on a donc eu d'abord l'ouverture du score par Xabi Alonso, hein, qui marque sur un coup franc assez intéressant où il y a un ballon dévié, en fait, et qui trompe Oblak. Ensuite, on a ce but d'égalisation dans Antoine Griezmann, et puis on va avoir le but de Lewandowski. Et là, on voit que finalement, le Bayern... On sentait à la fin, parce que finalement, quand il y a le but d'égalisation, ils ont encore 30 minutes, et finalement, les Bavarois ne vont pas réussir à...
Il s'en est pas fallu de beaucoup.
Il leur manquait deux à ce moment-là.
Ce qui est paradoxal, c'est que le 2-1, c'est un but un peu... Ça ressemble plus à du beach soccer qu'à du foot. C'est-à-dire, c'est très aérien, avec des têtes successives qui finissent par rentrer. On sentait que là, ça jouait vraiment au physique sur la fin, que il était plus tellement question de plan de jeu et de répéter les gammes, mais qu'il fallait vraiment avoir de la moelle. Oui, et finalement, efficace. L'équipe qui en a eu le plus, c'est quand même l'Atlético qui a plié sans rompre. Mais effectivement, Nabil a raison de souligner la qualité du travail d'Oblak sur ce match.
Je sais pas loin d'être le meilleur gardien de la compétition avec
voilà,
le Hart.
Et Neuer, en revanche, lui, on va pas faire le procès de Manuel Neuer, mais c'est plus tout à fait le gardien exceptionnel qui aurait mérité le ballon d'or. Sur cette saison, il est moins quand même décisif et transcendant que ce qu'il n'a été par le passé.
Les pénaltys, justement, c'est un scénario incroyable. Il y a un pénalty tout de suite après ce premier but en faveur du Bayern. On pense que tout va jouer à ce moment-là. C'est-à-dire déjà que s'ils avaient 2-0, surtout sur... On voit le désespoir d'ailleurs des joueurs de l'Atlético.
Ouais.
Et puis Nabil... Un jeu de regard avant de tirer et il est gagné par Oblak.
Pourtant, c'est pas le genre de garçon à trembler, Müller, parce que c'est quand même un tueur de sang-froid. Ça fait partie de cette catégorie de joueurs, mais paradoxalement, les deux pénaltys ont été tirés exactement de la même manière. Torres
exactement.
Aussi du côté.
Voilà.
Pardon, c'est Torres hein, qui se déchire sur
la droite
sur le
pénalty.
Après, moi, les pénaltys, bon, moi, je suis pas spécialiste des pénaltys. C'est un geste technique. En général, il faut jamais les tirer à mi-hauteur sur un côté, parce que si le gardien part du bon côté, il a le temps d'anticiper. En général, il faut viser le petit coin à ras de terre le plus fort possible. Mais dès que vous faites lever le ballon, si le gardien a un pas, avance d'un pas, il peut toujours anticiper du bon côté. C'est ce qui s'est passé sur les deux pénaltys. Alors, je vais pas donner des leçons de tir au but parce qu'il y a aussi le stress, il y a l'environnement, il y a tout ce qui se passe. Mais si, à ce moment-là, Müller marque, vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, que l'Atlético a le feu sacré, a une baraka pas possible, je pense qu'ils prennent un terrible coup derrière la tête.
Mais sur le premier, on voit que Oblak retarde le plus possible le plongeon pour pouvoir s'adapter à la frappe, et c'est ce qu'il arrive à faire. Sur le second, Torres le tire quand même moins bien que Müller, c'est-à-dire qu'il est moins placé, il est quand même un peu plus dans l'axe du but. Et peut-être un peu moins puissant. Donc il y a la prime à la qualité de l'arrêt, elle est plus pour Oblak, je pense.
Ouais. Mais Thomas Müller, c'était peut-être pas le bon client pour tirer ce penalty, parce qu'en comptant celui de ce soir, c'était son troisième échec sur ses cinq dernières tentatives.
Bah, c'est beaucoup. Ça me fait penser à Wissem Ben Yedder en Ligue 1, qui en est à 5 échecs sur 11 tirs. Donc dans ces cas-là, soit vous changez de tireur, soit le tireur de lui-même comprend qu'il est en difficulté et il laisse sa place. Mais en même temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, et ça témoigne aussi dans certains caractères.
Mais pour on l'a vu sur les images télé, sur le pénalty raté, Pep Guardiola peste intérieurement, sans doute encore plus fort que ce qu'il montre à l'écran, et on sent que il se dit, bon, voilà, Müller, je ne l'ai pas mis au match aller, on me l'a reproché toute la semaine dans la presse allemande. Là, je le mets, c'est peut-être, il le sait pas encore, mais il se dit, des occasions c'est comme sûr. Ça, dans une demi-finale
dans un
retour, il faut pas les rater. Il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que...
En même
ce
temps,
joueur, il m'aura coûté beaucoup.
En première mi-temps, on l'a beaucoup vu gêner justement la défense de l'Atlético, Thomas Müller. Il était souvent au milieu d'eux et il les a beaucoup gênés. Donc
jusqu'au but, il fait un bon match. Jusqu'au pénalty raté, il fait un bon match. Après, il en est sorti, quoi.
Est-ce qu'il y avait pénalty bon d'ailleurs, le deuxième pénalty, Nabil, selon vous,
moi,
sur l'Atlético?
J'ai discuté avec Patrick et il me dit que l'action se termine éventuellement dans la surface de réparation. Mais à ce moment-là du match, vu la configuration du match, l'action débute quand même. Bien à l'extérieur et pour moi c'est il y a pas pénalty, pour moi il y a coup franc.
Donc à ce moment-là, il y avait 1-1 et c'est vrai que le match pouvait aussi se transformer.
En même temps, il le met pas Torres.
Ça a pas finalement ça
n'était
pas
paradoxalement on était à 2.
Ça n'a pas influé sur le cours du match quoi hein, donc
En tout cas, le buteur de la soirée, hein, celui qui a libéré ses camarades, qui est d'ailleurs sorti avant la fin ensuite, eh bien, c'est Antoine Griezmann qui a inscrit son 7e but et c'est plus eh bien, que le meilleur buteur en Ligue des Champions de l'Atlético Madrid, à savoir Diego Costa. Et on va l'entendre, Antoine Griezmann, parce qu'il le disait au micro de nos confrères de Canal+, il est passé par toutes les émotions avant d'arriver à ce micro.
Très fatigué et ensuite beaucoup d'efforts et ensuite beaucoup de pression sur le banc et après de la joie quand l'arbitre a sifflé, donc je suis passé un peu partout. Mais déjà c'est un bon ballon, c'est Torres qui me la donne et ensuite j'ouvre mon pied et après je ferme la jambe pour essayer de la croiser et voilà, ça rentre, je suis content de marquer ce but décisif. Maintenant après c'est vrai que c'est un grand gardien et après il fallait marquer un but et je savais qu'on allait avoir peu d'occasion, donc voilà, je suis très content. On n'était pas dedans à la première mi-temps, on s'est fait manger, on gagnait pas les deuxièmes ballons, dans tous les duels on se faisait manger, donc il a fait un changement et voilà, il a changé le match lui aussi. Il faut continuer à travailler comme ça, garder les pieds sur terre et travailler comme on fait tous les jours pour essayer d'être au maximum. Là, je vais bien fêter ça avec l'équipe et après, on verra qui passera.
Voilà, son ton change hein, au fur et à mesure de l'interview et au fur et à mesure qu'il prend conscience de la grand exploit de l'équipe. Nabil, ce but, il est magnifique sur une grosse erreur de défense et on voit qu'il le dit très bien. Il dit c'est un grand gardien. Il sait qu'il a Neuer en face.
Ouais, là où il est fort, c'est que franchement, donc déjà il part à la limite du hors-jeu. Bon, Alaba est encore dans le coup. Il n'avait pas été impérial, je crois, au match aller. Et puis quand il arrive devant le gardien, normalement dans ce genre de circonstances, quand vous êtes gaucher, vous ouvrez votre pied. Donc je m'attendais à ce qu'il ouvre son pied. Et je pense que Neuer aussi. Donc finalement, il a pris le risque de ne pas ouvrir son pied. Et quand vous regardez bien les images, finalement, elle frôle Neuer, mais elle passe à une certaine vitesse qui fait que Neuer n'anticipe pas vraiment sur ce côté-là, parce que forcément, il s'attend à ce qu'il ouvre son pied. Un, il a justifié son salaire. Deux, il marque dans un match important. C'est pas un joueur Canada Dry, c'est-à-dire les joueurs Canada Dry, c'est les joueurs qui ressemblent à de l'alcool, mais qui ont pas le goût de l'alcool. C'est-à-dire qu'ils sont forts contre les faibles.
Les faibles.
Contre les faibles. Et moi, j'ai fait un tweet et c'est vrai que j'ai comparé ça à une situation que j'ai vue en quart de finale. Alors c'est vrai que c'est pas très sympa. Mais Zlatan, quand il se retrouve dans la même situation face à Manchester City, lui, il la met sur le parking. Pour le coup,
face à Hart.
Pour le coup, on va dire que Griezmann s'inscrit actuellement, en tout cas vu son état de forme, parmi les meilleurs joueurs de la planète.
Et ben justement, David Finzel, il y a des questions.
Sur les réseaux sociaux, il a déchaîné les réseaux sociaux. Et puis, on a une question de René Sam qui voudrait justement savoir si le Français peut accompagner Messi et Ronaldo sur un éventuel podium du Ballon d'Or.
Oui, parce qu'en plus, bon, déjà là, il est encore en course, il va jouer la finale de la Ligue des Champions, donc il y a des chances qu'il la gagne.
C'est lui qui avait marqué
et
le but contre
si
le Barça.
Si c'est le cas,
on s'en
il y aura
souvient,
forcément énormément contribué puisqu'il en est déjà à 7 buts sur cette campagne de Ligue des Champions.
Bon, et des buts décisifs.
Pour situer, bon, Cristiano Ronaldo en est à 16. Mais bon, Griezmann, il n'a pas joué Malmö en phase de poule. Et Lewandowski en est à 9, hein, pour les joueurs encore en, qui étaient encore en course ce soir. Donc c'est quand même une belle performance. Et puis il va jouer l'Euro. Donc là aussi, le fait que Karim Benzema ait été écarté lui laisse encore plus le champ libre dans le secteur offensif français. Donc là aussi, si ça se goupille bien, il peut encore gagner des points.
Malgré tout, Nabil, quand on entend justement le responsable de son propre club, le président de, si je me trompe pas, c'était le président de l'Atlético, et qui dit c'est notre Messi à nous. Alors, c'est une comparaison un peu exagérée, mais en même temps, c'est leur perle à eux, c'est sûr.
Oui, c'est leur perle, mais comme à l'aller, Saúl Ñíguez, l'Espagnol, avait réussi également à un exploit.
Un but incroyable.
Leur côté, alors là où c'est fort pour Griezmann, c'est que finalement, il fait trois rôles. Il est presque milieu de terrain, milieu offensif et attaquant. Donc, il est capable
de défendre, d'aller chercher
le ballon, de dribbler et puis de finir. Donc, il fait tout, le gars.
Il a encore une marge de progression.
Ouais, il a encore une marge de progression. Et moi, j'ai des joueurs comme ça, c'est un peu même comme Mahrez, l'Algérien de Leicester. J'aimerais le voir dans des équipes qui jouent beaucoup plus haut. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même s'il est capable de combiner dans des petits espaces dans une équipe de possession, mais imaginez dans une équipe qui joue beaucoup plus haut, il a moins de rôle défensif. C'est-à-dire qu'il laisse quand même de l'énergie. Il y a quand même, que vous voyez ou non, il perd un peu de lucidité certainement à certains moments parce que comme il passe son temps à se replacer. Regardez en première mi-temps, est-ce que vous l'avez vu? Non, parce qu'il passait son temps à compenser.
On l'a beaucoup vu
en
défense.
Voilà, donc il passait son temps à compenser. Donc, je pense que évidemment, il a encore une vraie marge de progression. Maintenant, moi, je le vois pas Ballon d'Or, mais j'imagine qu'il peut très bien accompagner sur le podium, comme l'a fait Ribéry une année, les deux monstres que sont Ronaldo et Messi.
Guardiola. Échec.
Allons-y,
Guardiola,
justement, encore. Effectivement.
Échec et mat, là.
Voilà, c'est fini.
On lui souhaite pas que Pellegrini gagne la Ligue des Champions parce qu'il va arriver, il va pas être bien psychologiquement parce qu'il est arrivé au Bayern. Hennekens venait de gagner la Ligue des Champions, donc il ne la gagnera jamais avec le Bayern. Imaginez une seule seconde s'il arrive à Manchester City et que comment il s'appelle,
Pellegrini,
l'Argentin, l'ingénieur chilien et gagne la Ligue des Champions. Moi, je suis Guardiola, je suis pas bien, je vous le dis. Hein.
Vous n'êtes pas Guardiola, Patrick, non, vous seriez...
Moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Guardiola a montré que son style de jeu était exportable, puisque quand même le Bayern, grâce à ça, et il y a une rupture stylistique dans le jeu du Bayern après Heinkes, mais le Bayern a continué à gagner des titres en Allemagne, donc ça, c'est un acquis, mais l'échec, c'est la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il est tombé chaque année sur des coachs et des équipes qui ont su le faire déjouer et le mettre en échec en demi-finale. Trois équipes espagnoles, lui qui vient de Catalogne, c'est encore plus dur. Bon, même si l'année dernière c'était le Barça, mais c'était le Barça de Luis Enrique, c'était pas un Barça 100% pur comme la cocaïne, bon, disons, mais c'était pas un Barça d'une pureté exceptionnelle. Donc voilà, donc si on veut, c'était un Barça un peu hybride qui l'a lui aussi déjoué. Donc il va falloir qu'il se remette en question là aussi.
David,
nos auditeurs, hein, d'une façon générale, jugent pas mauvaise les prestations de Guardiola sur le banc de Munich, mais ils se posent quand même la question de savoir si cette demi-finale a pas été surtout perdue au match aller.
Ouais, c'est pas faux.
C'est vrai que le match aller ne pas marquer en terre adverse quand on reçoit au match retour, c'est un gros handicap, surtout face à une équipe qui défend aussi bien et une équipe qui récupérait son leader de défense ce soir puisque Godin était rétabli, ce qui n'était pas le cas à l'aller. Et finalement, à l'aller, on pouvait craindre que l'Atlético sans Godin n'ait pas la même assise et la même solidité. Et finalement, ça ne s'était pas fait vraiment ressentir. Donc voilà, c'est... Pour Guardiola, la clé, il a pas totalement trouvé. Quoi. Ouais. Donc,
à une question qui peut être intéressante à nouveau de Giovanni, qui aimerait savoir si l'Atlético peut remporter la finale, parce qu'il souligne que la finale se jouera évidemment que sur un match.
Bah oui, ils peuvent la remporter déjà si sont. Alors il faudra voir l'adversaire, ça va être intéressant parce pour eux, je leur souhaite plutôt Manchester City parce que.
On va en parler dans la deuxième partie,
d'accord,
mais c'est vrai que cette équipe, en tout cas de l'Atlético, sur un one shot, hein, comme on dit, c'est peut-être. Mais on voit que sur les matchs aller-retour, ils ont aussi une tactique qui finalement s'étale sur 180 minutes.
Moi, je pense que sur un match, ils doivent tout donner sur un seul match. Donc il y a encore moins de calculs et pour leur jeu qui est basé sur la débauche d'énergie, c'est pas forcément un handicap. Donc ils peuvent pour
ça
moi.
Ça avait failli marcher il y a 2 ans contre le Real.
Voilà, quelques minutes.
Justement, on va essayer de voir un peu à quoi pourrait ressembler cette finale prochainement. Ça sera à San Siro. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause information.
Bienvenue au Sénégal, sur la voie de l'émergence. Un Sénégal émergent, un marché de plus de 300 millions de consommateurs, une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest.
Il est 23h30 ici à Paris, minuit 30 à Alep. Vous avez choisi d'écouter RFI.
Adrien Delgrange.
Et le tour du monde de l'actualité internationale en 3 minutes. En Syrie d'abord, après plusieurs jours de bombardements sur la ville d'Alep par les forces du régime et plus de 250 morts. Ces dernières heures, ce sont des groupes de rebelles qui sont passés à l'attaque. Les opposants au régime de Bachar el-Assad ont visé des quartiers tenus par les forces gouvernementales, dont un hôpital qui a été touché par des roquettes. Ces nouvelles attaques ont tué au moins 14 personnes et fait des dizaines de blessés. Puis nous venons d'apprendre que le Conseil de sécurité de l'ONU allait se réunir en urgence mercredi pour débattre de la situation à Alep, et ce à la demande de la France et du Royaume-Uni. Le marathon des primaires aux États-Unis, aujourd'hui c'est l'Indiana qui est appelé à voter, petit état du Midwest. 83 délégués en jeu chez les démocrates, 57 côté républicain. Les favoris des deux camps, Hillary Clinton et Donald Trump, vont tenter de conforter leur avance avant la Californie le 7 juin prochain. En France, la réforme du Code du travail en débat à l'Assemblée nationale. La ministre Myriam El Khomri a donné cet après-midi le coup d'envoi des discussions. Dans l'hémicycle, la motion de rejet du projet de loi défendu par le groupe Les Républicains a largement été rejetée. Seuls 105 députés ont voté pour, 200 ont voté contre. Les débats vont maintenant durer jusqu'au 17 mai avant le vote de cette loi travail. Les syndicats, eux, appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 12 mai prochain. La chancelière allemande commente rarement la situation politique intérieure en France, mais aujourd'hui Angela Merkel s'est engagée devant des élèves francophones de Berlin à lutter contre la montée du Front National en France. Je vais essayer de contribuer à ce qu'évidemment d'autres forces politiques soient plus fortes que le Front National, c'est ce qu'a déclaré Angela Merkel. Réaction de la principale intéressée, la présidente du FN Marine Le Pen a dénoncé mardi une ingérence et des propos très graves de la part de la chancelière allemande. Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a accueilli aujourd'hui la flamme olympique à Brasilia. À cette occasion, l'actuelle dirigeante de la 8e économie mondiale, prise dans une tourmente politique, a promis des Jeux olympiques de Rio à succès. Et puis enfin, du football, à l'issue d'un très beau match, l'Atlético se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, au terme d'une double confrontation plutôt épique. 1-0 au match aller, 1-2 au match retour. L'Atlético Madrid élimine le Bayern de Munich et file tout droit en finale. Pour connaître son prochain adversaire, il faudra attendre la seconde demi-finale demain soir, Real de Madrid, Manchester City. À minuit, vous retrouverez derrière ce micro Priscille Lafitte pour de nouvelles informations. Merci à vous d'écouter RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans cette deuxième partie avec Nabil Djellit, Patrick Juillard, avec Eric Mamrut et David Finzel. Nous sommes à votre écoute, chers auditeurs, et nous allons encore un peu parler justement de cette Ligue des Champions et du dénouement qui est proche maintenant pour savoir quels sont les finalistes, puisqu'on a eu, eh bien, ce soir le nom de l'un de ces deux finalistes, et c'est donc l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui, a donc battu ces Allemands. Un petit mot sur l'effectif des Allemands ce soir. Certains éléments sur lesquels on aurait pu compter finalement n'étaient pas là et n'étaient pas très bons, c'est ça, Patrick et Nabil.
On en parlait avec Nabil. Douglas Costa n'a pas été sur son côté. Il n'a pas été le vrai pendant de Ribéry, qui lui, au contraire, est monté en puissance au fil du match et a vraiment fait des différences. Et puis on peut souligner Alaba, comme au match aller, pas terrible dans les flops. Et on peut souligner
celui
l'absence
qui d'ailleurs
de...
laisse filer Griezmann, hein. Il essaye d'intercepter la balle.
Si sur le but, Boateng n'est pas, qui est monté en zone offensive, n'est pas couvert. Donc ça, c'est quand même un peu problématique au niveau de la coordination globale de l'équipe. Après, l'absence de Robben quand même se fait sentir.
Mais ça fait plusieurs matchs qu'il est pas là.
C'est un vrai handicap.
Non, mais finalement, c'est The Revenant, excusez-moi, Ribéry, qui réalise la meilleure performance. Mais finalement, ça résume un peu la saison du Bayern. Ils ont tâtonné derrière. Ils n'ont jamais eu de charnière centrale solide parce qu'ils ont eu des blessures avec Boateng, Bastuber qui est revenu. Il a improvisé en mettant Kimmich qui est un milieu défensif. Benassia est à côté de la plaque.
Xavi Martinez, milieu défensif.
Donc on a vu, vous savez, quand tu vous avez une charnière centrale, je veux dire, on en parle même pour l'équipe de France. Je veux dire, à la base, quand vous commencez par construire une équipe, c'est d'avoir une charnière centrale solide. Donc, elle a été prise à défaut à deux reprises par cette équipe de l'Atlético. Et ensuite, là, ce qui était le point fort finalement du Bayern, c'est-à-dire leur cartouche offensive avec une densité incroyable, finalement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Il n'y a pas eu de festival de buts. À un moment, on a pu croire que ça allait ressembler au scénario du match face à la Juve. On n'en était pas loin, finalement, quelque part. Mais Lewandowski, qui marchait sur l'eau il y a quelques semaines de ça, il est moins bien.
Il en est à 3 buts sur ses 10 derniers matchs.
Voilà, Douglas Costa, c'est un peu comme Di Maria, c'est-à-dire que vous l'avez acheté pour gagner ces matchs-là. Di Maria avec le PSG, il ne l'a pas gagné. Et puis finalement, c'est Ribéry qui s'est retrouvé être finalement, dès que ça passait sur le côté gauche, ça dédoublait bien. Par contre, il y avait des bons automatismes. Je sais pas si vous avez remarqué avec Alaba, les deux s'apprécient et se trouvent bien.
Ils donnaient des consignes d'ailleurs.
Ça venait souvent du côté gauche. Ensuite, vous avez le petit Coman qui est rentré à mon avis un peu trop tard parce qu'il a quand même apporté un peu de percussion, même s'il apparemment il a manqué de lucidité sur certaines actions.
Pour terminer
ses actions. Donc ça résume assez bien la saison du Bayern, ce match.
Ça montre un peu, pour les problèmes défensifs, c'est la difficulté pour ces très grands clubs de recruter des joueurs qui sont destinés à être remplaçants. C'est-à-dire, si on veut avoir une chance de gagner la Ligue des Champions, il faut qu'on ait deux équipes, pratiquement tous les postes doublés. Or, pour attirer des joueurs, si on leur dit, voilà, vous allez être remplaçant et vous jouerez quand le titulaire sera blessé, c'est pas évident et on se retrouve parfois avec des joueurs qui sont pas au niveau quand ils entrent en jeu.
Sauf si c'est un jeune comme Kingsley Coman.
C'est un peu difficile pour ça.
En Coman, tout cas, c'est l'avenir, hein. Attention.
Sur le 27 juin prochain, eh bien à Milan, il y aura donc la finale de cette Ligue des Champions. Alors, qui face à l'Atlético demain soir? On a un autre grand rendez-vous de la compétition. Real Madrid à Santiago Bernabéu, hein, qui reçoit...
Je crois que c'est plutôt le 28 mai, la finale.
Manchester City, pardon, le 27, j'ai dit le 27...
juin.
Oui, juin.
Ouais.
Évidemment,
c'est
rempli d'euros, c'est impossible.
Il est tard.
Pardon.
Il est tard.
Alors, en tout cas, là-bas, on avait eu 0-0 à Manchester City.
Ouais.
Est-ce que les Meringues sont favoris?
Oui.
Ah oui,
oui, oui.
Mais
ça dépendra
pourquoi? Parce
quand
qu'ils
même,
ont récupéré Ronaldo?
Bah ouais, parce que de toute façon Ronaldo, lui, c'est la catégorie très au-dessus, c'est-à-dire c'est le gars qui peut gagner le match tout seul s'il s'énerve. Non mais c'est vrai, je veux dire, il est capable
contre une défense comme celle de City, quoi.
Parce que là, il va se taper Bakary Sagna qui l'avait eu. Bakary Sagna qui s'en était plutôt bien sorti lors du match amical, souvenez-vous, France-Portugal. Parce que Sagna, finalement, bon, c'est pas un grand contre-attaquant, mais par contre défensivement,
sur l'homme,
ouais,
ça va,
c'est pas mal.
Quand ça va pas trop vite.
Mais bon,
quoi.
Si l'autre arrive énervé, ça peut faire très mal. Maintenant, il faut voir qui vont mettre en pointe, quel choix va être fait.
Benzema est out.
Il y a Bale qui a quand même porté l'équipe ces derniers temps, qui est un peu l'homme de cette fin de saison.
En Liga,
mais
hein.
En même temps, attendez, Manchester City, c'est tout bénéfice pour eux. Cette équipe, personne ne l'attendait. Rappelez-vous, elle devait se faire éliminer dès l'aller face au Paris Saint-Germain. C'est une fin de cycle. T'as des gars qui reviennent en forme comme De Bruyne, t'as des mecs qui vont quitter le club. Non mais ça ressemble au scénario idéal, quoi.
Ils viennent de perdre 4-2 en Première Ligue.
Voilà.
Oui, mais avec une équipe C.
Ouais, avec une équipe C. Donc eux, pour eux, franchement, ils sont dans la peau de l'outsider et c'est la position. Je pense que c'est la posture idéale.
Oui, mais si je pense que s'ils encaissent vite un premier but, ça va être dur.
Ce qui ne nous empêche pas, avec un joueur de la classe de De Bruyne, de revenir, même Agüero qui a été décevant. Faudra regarder Agüero, parce que je sais pas si vous avez vu, mais depuis les quarts de finale, on dirait Zlatan, hein. Il est pas là, quoi. Je veux dire, en Ligue des Champions.
C'est même pire.
Là, quoi. Franchement. Alors, David Silva, je sais pas s'il sera là, parce que c'est quand même un garçon extrêmement important et intéressant. Et puis, vous avez les deux casseurs, les deux Brésiliens, là, qui fonctionnent bien, Fernandinho. Puis, de l'autre côté, vous avez leur troisième copain qui pourrait jouer à trois, la Casemiro, parce qu'on a
il sera pas là demain.
Ah, il sera pas là?
Non.
Bon, bah, d'accord. Alors, voilà.
Lui aussi est forfait comme Benzema.
D'accord.
Mais c'est vrai que l'expérience, évidemment, est du côté madrilène. Mmh. C'est une balance très, très déséquilibrée. Première demi-finale de Ligue des Champions pour Manchester City. Le Real Madrid va tenter de disputer sa 14e finale de Ligue des Champions. Il en a remporté 10. Donc, effectivement.
C'est énorme, quoi.
Avec
énorme.
Zidane à la tête de tout ça, qui saura.
Mais j'imaginais un affrontement entre Zidane et Diego Simeone avec, sur le banc, c'est extrêmement intéressant.
C'est dantesque.
Une petite
Allez, bah, une petite question juste pour finir. De Mamadou, là, le Real, si le Real est en finale, hein, le Real a-t-il les mêmes armes pour vaincre cette équipe de l'Atlético?
Bah, moi, je vous le dis encore, quand vous avez Ronaldo, ça s'appelle l'arme fatale. Donc, avec Ronaldo, vous pouvez battre n'importe quelle équipe au monde.
Donc, en 2014. Moi, je dirais oui si la BBC est au complet. Si elle ne l'est pas, ça sera plus dur.
Bon, mais elle sera pas au complet apparemment.
Non, pour la finale.
Pas, ah, pour la finale.
Non, dans l'hypothèse.
Dans l'hypothèse d'une finale.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à y voir plus clair sur eh bien ces matchs de retour de Ligue des Champions. On va maintenant faire honneur au vainqueur du fameux championnat d'Angleterre, ceux de la Première Ligue. Une soirée de fête pour un couronnement tant attendu, tant espéré et tant mérité. Leicester est devenu champion hier soir à la faveur d'une rencontre entre son poursuivant direct Tottenham et Chelsea. Un nul 2-2 qui a fait donc leur bonheur. Largement mérité donc, puisque Leicester... Maintenant, on saura tous prononcer le nom de cette ville et non pas Leicester. Donc, Leicester a régné sur le championnat d'Angleterre pendant des semaines. Un véritable exploit pour le club de cette petite ville du centre de l'île britannique, connue jusqu'à présent pour abriter le tombeau d'un roi éphémère, mais ô combien symbolique, Richard III, dont les deux années d'un règne tyrannique et machiavélique ont été immortalisées par le théâtre de Shakespeare. Le règne des renards bleus de Leicester durera-t-il plus de 2 ans? Alors, plus d'une saison, on ne sait pas encore. En tout cas, cette couronne n'a rien d'une usurpation et tout d'un exploit. Un petit poussé qui s'adjuge la couronne au mérite, eh bien, au terme d'une incroyable épopée. Alors, on avait appelé en 2004 les Gunners les Invincibles et apparemment, la presse anglaise parle d'indestructible. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour.
C'est des indestructibles, c'est ça? En anglais, ça donne quoi d'ailleurs? Indestructible avec l'accent?
Ouais. Oui.
Je vous laisse le dire.
Non, mais c'est une équipe effectivement qui on prédisait que la pression du titre allait les faire craquer semaine après semaine.
Et on puis, en a beaucoup parlé dans Radio Foot et avec vous notamment.
Oui, mais oui, c'est vrai. Et tout le monde pensait qu'ils allaient craquer.
Craquer physiquement.
Ben non, c'est Arsenal qui a craqué, c'est City qui a craqué, puis c'est Tottenham qui a craqué hier soir à Chelsea. Et Leicester, bah ils sont voilà indestructibles. Et puis surtout, ça fait plaisir à tout le monde de voir. Enfin, dans le pays du foot business, où il y a beaucoup d'argent, ben, parler d'une équipe qui fait plaisir à voir, avec beaucoup de sourires, beaucoup de simplicité. Et puis voilà, c'est vraiment la beauté du foot anglais.
Ça a été la fête toute la nuit à Leicester?
Alors moi, j'étais pas à Leicester, donc j'étais à Saint-Paul.
C'est à 150 km au nord-ouest.
Mais il y a eu effectivement une énorme fête. Ils sont tous rassemblés dans le centre de la ville, puis autour du stade. En ce qui concerne les joueurs, ils étaient tous réunis chez Jamie Vardy pour assister à la rencontre. Ils ont fait la fête un bon bout de temps. Ils se sont retrouvés après dans un club du centre de la ville. Pour certains, visiblement, jusqu'à 4h30 du matin. Avant de reprendre le chemin de l'entraînement, parce qu'ils s'entraînaient quand même cet après-midi. Enfin, ce matin, en fin de matinée. Ils ont quand même célébré leur titre avec le staff dans un restaurant italien où ils ont fêté le titre, donc avec de la pizza et de la bière. C'est assez modeste, voilà, c'est à l'image de Leicester. La pizza qui a quand même un symbole énorme à Leicester, hein, c'est-à-dire que c'est à chaque clean sheet, à chaque match sans encaisser de but, Claudio Ranieri payait sa pizza à toute équipe.
Ouais, c'est donc l'entraîneur italien qui allait imprimer sa
marque. No clean sheet, no pizza. C'est dur.
Après, parce qu'il a reçu, une prime. Il peut payer ça en pizza.
Oui, sans doute. En tout cas, cette épopée, c'est incroyable, Olivier, parce que ça fait des années qu'en Angleterre, eh bien, il y avait ce Big Five ou Big Four qui trustait les premières places et donc les places européennes.
Je vais citer un des confrères de Bruno, ne
notre collègue Vincent Duluc ce matin dans l'équipe. Alors c'est vrai que c'est un peu grandiloquent, mais il y a une part de vérité. Vous nous direz peut-être tout ce que vous en pensez, mais le titre de champion d'Angleterre de Leicester est la plus grande surprise du football moderne, l'une des aventures les plus invraisemblables de l'histoire de ce jeu. Dans le championnat le plus riche et le plus diffusé de la planète, la 17e masse salariale a rappelé qu'il fallait autre chose que les meilleurs joueurs pour bâtir la meilleure équipe d'un grand pays du jeu. Tout est dit, non ?
Dominique, fasciné, vous aussi ?
Ah oui, c'est tout ça génial, tout ça fantastique. Alors je me suis trompé, j'ai jamais cru, hein, parce que
comme tout le monde.
Bah non, mais moi ma théorie c'était Ranieri, il gagne rien. Il a eu les plus grands clubs, la Juve, Chelsea, Valence.
Trois fois deuxième jusqu'à présent.
Voilà, Monaco.
Deuxième quand même, Dominique.
Oui,
deuxième en Ligue 1, deuxième dans le Calcio, deuxième en Première Ligue.
Jusqu'à il y a 4-5 journées, je n'y croyais pas. Je pensais qu'il allait avoir un inversement de la courbe, ce qui aurait marché dans ce pays-là, mais pas, ça marche pas partout. Et donc je suis très surpris. Je trouve ça fantastique. Alors juste, excusez-moi de ramener tout au championnat de France, mais 130 millions de budget, ça ferait qu'il serait troisième à peu près en France, hein, derrière Paris et Marseille ou Lyon, troisième ou quatrième budget.
Mais 17e masse salariale.
Quand on est pauvre, quand on est pauvre en Angleterre avec des guillemets, on est quand même riche en France. Hein, c'est pour dire un petit peu où ça se situe. Et donc c'est fantastique. Et j'aimerais que le championnat de France, on arrête de dire que l'hégémonie du Paris Saint-Germain, il y a rien à faire, que de baisser les bras avant d'avoir joué le match, d'être résigné. Parce que là,
faut remettre Ranieri à Monaco, c'est
mais
ça?
Non, mais c'est là, ils ont pas un club riche, genre Chelsea, ils en ont plusieurs. Ils ont Liverpool qui est riche, ils ont Manchester City qui est riche, ils ont Manchester United qui est riche. C'est-à-dire qu'ils ont battu, Leicester, ils ont battu tous ces clubs-là. Il a pas battu que un club qui aurait dévissé comme Arsenal ou dont on attend le titre depuis des années. Là, il a battu tous ces clubs riches.
Faut rappeler, il y a un an, en avril 2015, ils sont à 7 points du premier non relégable, Leicester. À 7 points du premier non relégable. Et derrière, et ils finissent 14e. Non, ils finissent 14e en enchaînant 7 victoires sur les 9 derniers matchs. Ils lancent finalement ce qui allait être cette saison-là. Mais voilà, il y a un an, ils sont au fond du trou. En 2009, ils sont en 3e division. Même, ils passent 10 ans sans revenir en première ligue. Voilà, l'histoire est vraiment belle. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des tas de choses à s'en inspirer. On sent, dans la colonne de Duluc ce matin, oui, effectivement, l'envie de se dire, et en Ligue 1, si vous lisiez, si vous regardiez un peu ça.
Bruno, vous situez, vous aussi, c'est finalement le début de cette épopée à ce sauvetage au ras des pâquerettes, hein, pour ne pas descendre dans la deuxième division anglaise.
Ça ne s'était jamais vu, hein, en première Ligue, un tel sauvetage.
Bah oui, complètement, et c'est d'ailleurs ce que disent les joueurs, c'est qu'il y a eu une espèce de dynamique positive depuis ce mois d'avril, qui s'est poursuivi cette saison, entrecoupé, comme il faut le rappeler, d'une histoire assez sordide lors de leur tournée en Asie, en Thaïlande, qui a résulté avec le licenciement de 3 joueurs, dont le fils du manager qui les avait sauvés, et ce manager, Nigel Pearson, qui a été aussi limogé. C'est pour ça qu'on a rapatrié Ranieri dans le scepticisme le plus total en Angleterre. Et Ranieri, c'est là où Ranieri a été très fort, c'est que faut pas oublier l'importance de Nigel Pearson qui avait bâti cette équipe dans les grandes largeurs, l'état d'esprit en tout cas de cette équipe. Ranieri n'est pas venu pour imposer sa façon de jouer, il s'est adapté. Il a très vite senti que l'équipe avait ses habitudes, qu'elle avait sa façon de s'entraîner, et il a apporté par petites touches, et ben voilà, son apport. Et notamment le plus gros changement, par exemple, ça a été de passer d'une défense à 3 à une défense à 4. Nigel Pearson faisait jouer une défense à 3. Il a dit c'est pas possible, on pourra pas continuer en première ligue comme ça. Ils sont passés à 4. Et puis tout ça comme ça en douceur, au fil des semaines, il s'est un petit peu glissé dans la peau du manager de Leicester. Il a beaucoup écouté, notamment le responsable du recrutement très important à Leicester, Steve Walsh, qui est à l'origine notamment des arrivées de Fuchs, le latéral gauche autrichien, excellent. Le prêt de Robert Huth qui fait beaucoup de bien à cette équipe, beaucoup d'expérience, et puis c'est lui surtout qui a déniché N'Golo Kanté et Riyad Mahrez. N'Golo Kanté, par exemple, Ranieri ne le connaissait absolument pas avant qu'il n'arrive à Leicester, et il était un peu sceptique, et c'est Walsh, à force d'insister, de lui répéter le nom de Kanté, il a dit ok, on y va, et quand il, avec le prix qu'ils ont payé, ça a été la plus grande réussite de l'été dernier. Donc c'est voilà, ils sont appuyés sur cette dynamique, et puis cette dynamique elle a continué en douceur grâce à l'humour et le sourire de Ranieri, qui en conférence de presse est arrivé à divertir à la presse, à les écarter des sujets un peu brûlants. Faut rappeler aussi qu'ils ont jamais eu de blessures majeures cette saison, qu'ils ont enchaîné vraiment avec le même 11 quasiment toute la saison. et puis voilà, et puis ils ont évacué toute pression qu'ils ont reportée sur les deux autres gros clubs d'Angleterre.
Je voudrais juste en profiter, puisqu'il y faisait allusion, Bruno, pour citer les Africains de l'effectif, donc qui sont champions d'Angleterre depuis hier, Riyad Mahrez. Bon, premier Africain élu par ses pairs, donc meilleur joueur du championnat,
Riyad
Mahrez. Bruno faisait allusion, hein, 35 matchs sur 36, 34 fois titulaire. Il y a aussi le franco-malien, parce que même si les Maliens nous en veulent beaucoup, d'avoir vu Didier Deschamps l'appeler sous le maillot bleu N'Golo Kanté, quand même. Et puis il y a deux Ghanéens, hein, Jeffrey Schlupp, qui a été formé au club, qui a joué 22 matchs cette saison, des bouts de matchs parfois, 14 fois titulaire, et puis Daniel Amartey également, Ghanéen, qui lui a joué très peu, 5 matchs, une seule fois titulaire. Voilà pour les Africains champions d'Angleterre.
Dominique.
On sait comment ils ont repéré N'Golo Kanté, parce que vous avez dit le nom de la personne, le directeur sportif qui est venu le chercher, mais comment ils ont eu l'idée? Qu'est-ce qui, on sait qu'on connaît le circuit, le réseau.
Bah c'est Steve Walsh, en fait, depuis deux ans, il a instauré un énorme réseau de scouts à travers toute l'Europe. Souvent avec les moyens du club, il savait très bien qu'il fallait dénicher des bons joueurs. Et c'est comme ça qu'ils ont repéré, en suivant la Ligue 1 régulièrement, en suivant de fait d'avoir eu Riyad Mahrez, d'avoir déniché Mahrez en Ligue 2, ils ont commencé à suivre et la Ligue 2 et la Ligue 1. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur ces rencontres. Ils ont très vite senti que ce joueur-là pouvait apporter ils étaient d'ailleurs très étonnés, même Steve Walsh, c'est ce qu'a dit Steve Walsh, j'étais très étonné qu'aucun autre grand club se soit mis sur les rangs pour N'Golo Kanté.
Ça fait peur.
Et on peut penser notamment à Arsenal et Arsène Wenger.
Moi je vois depuis ma fenêtre, ça fait peur que Lyon, Marseille, Paris n'aient pas misé sur N'Golo Kanté. Combien, 5 millions d'euros, vous dites?
5,6 millions de livres. Donc ça fait à peu près 8 millions d'euros.
8 millions d'euros. Bah, c'est le prix que Paris a payé pour Stambouli.
Riyad Mahrez, ils l'ont acheté 450 000 euros hein, au Havre. Ouais. Il vaudrait aujourd'hui entre 40 et 42 millions d'euros à la revente.
David, comment vous les voyez-vous, ces Foxes de Leicester?
Moi, ce qui m'impressionne, ça n'est pas le fait que Leicester soit champion, même si ça peut paraître curieux, parce que dans un championnat qui est dénaturé par l'argent, il me semble qu'une équipe bien structurée, bien coachée, bien drivée, peut réussir des choses.
Elle est assez humaine aussi. Hein.
Ça m'intéresse le listing qui a été donné par Bruno à l'instant. Moi, les deux joueurs que je connais le plus, évidemment, qui sont passés par l'Allemagne pour Fuchs et allemand pour Robert Huth, sont des joueurs moyens à moyens bons. Et là, deux exemples parmi d'autres. Vous en avez cité d'autres, mais deux exemples. Ces deux joueurs-là ont été meilleurs qu'ils ne sont cette saison. Ça veut bien dire qu'il y a une espèce d'alchimie, il y a eu sans doute un travail peut-être humain, le travail de cohésion, le travail de je sais pas, la bonne ambiance, la bonne humeur, qui font que on est meilleur qu'on est individuellement, et c'est ça moi qui m'intéresse le plus. Ça n'est pas tant que Leicester devance des budgets délirants, c'est le fait que ces hommes, cette aventure humaine ait été mené à bien, c'est ça qui m'intéresse le plus.
On revient sur le travail de l'entraîneur, comme on a parlé avant de Simeone. Exactement. On peut parler de Ranieri aussi aujourd'hui. Ouais.
Hein. Mais ça fait penser un petit peu, peut-être Dominique a aussi des compétitions, genre une Coupe du Monde où on va avoir une équipe où il y a une grande cohésion et où tout d'un coup elle va bousculer ou surprendre. On peut penser au Danemark dans un Euro, on peut penser à ces équipes comme ça où il se passe quelque chose et où finalement ça aboutit à une belle aventure.
Vincent qui a cité Olivier Duluc parle d'une des plus grandes surprises grande surprise de l'histoire moderne. 2004, la Grèce qui gagne le championnat d'Europe, c'est incroyable.
Il y a eu l'Hellas Vérone, championne d'Italie dans les années 80 aussi, personne n'avait
vu. Récemment, pour moi, l'exemple le plus récent, à la limite, c'est Montpellier 2012 en France, avec une équipe, avec Belanda, Utaka, Giroud et Cabella, qui devient champion de France. C'est la Grèce 2004, et voilà, il y a pas beaucoup d'exemples.
En Angleterre, il faut que l'argent plus loin.
L'argent dénature tout dans le football, en permanence. Ah non, ça, donc
alors en bon copain, on a cité Vincent Duluc, maintenant on va citer un autre copain à nous, Christophe Carmarens, notre collègue du multimédia RFI
en service des sports.
Et non, mais il rappelait sur les réseaux sociaux aujourd'hui l'incroyable parcours, Bruno pourra peut-être nous en dire un mot aussi, de Nottingham Forest. Ça nous dit à tous quelque chose. Bah, Nottingham Forest, promu en 77, champion d'Angleterre l'année suivante en 78, et derrière, attention mesdames, messieurs, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on l'appelait à l'époque, en 79 et en 80, c'est le seul club au monde qui compte plus de titres de champion continental, de champion donc d'Europe, que de titres national. Mais derrière, il y avait eu quand même encore la Coupe de la Ligue 78-79, le Charity Shield en 78, plus fort finalement que Leicester, mais voilà, quelle belle aventure, quelle belle aventure.
Il y a beaucoup d'histoires, comme Dominique qui l'a dit tout à l'heure, en Espagne c'était la dernière, je pense que c'était le Deportivo de la Coruña, année 2000. Donc on se remonte, on va trouver la Real Sociedad chez nous.
Ce qui est inquiétant dans les exemples qu'on donne, c'est que c'est des succès sans lendemain. Nottingham Forest a un peu disparu, le Deportivo de la Coruña, on n'en parle plus trop, la Grèce.
Blackburn aussi.
Il y a pas eu de, donc Leicester, avec la Ligue des Champions, avec les appels du monde entier, Mahrez aujourd'hui, il est sollicité par tout le monde. On ne sait pas si l'équipe elle peut exploser ou se maintenir comme ça.
Justement, il y a Gianni Infantino aujourd'hui, président de la FIFA, mais qui fut de l'UEFA, et qui dit bienvenue évidemment à Leicester en Ligue des Champions. Et justement, il y a aussi le propriétaire thaïlandais qui dit je veux garder tout mon effectif. Qu'est-ce qu'on imagine pour l'année prochaine du côté de l'Angleterre?
Ce qui est marrant, c'est que Leicester donc a été sacré deux journées avant la fin et ils vont avoir quelques jours pour savourer et puis aussi compter leurs sous, parce que gagner la première ligue, c'est évidemment un jackpot. On estime pour l'instant le pactole autour d'un peu plus de 200 millions d'euros, rien qu'en rapportant cette première ligue avec les droits télé, avec évidemment tout ce qui est le sponsoring, les droits de diffusion de cette saison.
C'est énorme.
C'est un jackpot énorme, ce qui leur permet a priori d'espérer pouvoir conserver tout le monde. Ça sera difficile évidemment. C'est pas qu'une question d'une question d'argent. On peut penser que Jamie Vardy, à son âge, 29 ans, même si Manchester United serait sur lui, on peut penser qu'il va poursuivre à Leicester. Il a prolongé au mois de février jusqu'en 2019, je crois. Il a doublé son salaire. Les deux autres joueurs importants, c'est évidemment Riyad Mahrez, qui plaît beaucoup, et surtout N'Golo Kanté. On dit beaucoup que le joueur le plus important cette saison à Leicester, c'était Kanté, parce que sans lui, l'équipe était beaucoup moins bien.
Ça va être le plus demandé, Bruno.
Ça serait la priorité de recrutement d'Arsène Wenger à Arsenal. Est-ce que Leicester est capable de retenir ce joueur? C'est compliqué.
J'ai un autre nom à vous donner. Pour Mahrez, on parle d'un salaire qui passerait de 2,2 millions d'euros par an à 5 millions d'euros, du double.
Moi, j'ai un autre nom à vous donner, Bruno, pour N'Golo Kanté. Je pense que le Real Madrid est dessus.
C'est possible. De toute façon,
c'est cadeau, c'est une info comme ça, c'est cadeau.
Si les clubs européens ont vu jouer Kanté cette saison, ils peuvent tous être dessus. Le Bayern, c'est un joueur formidable.
Non, Annie, simplement je vous dis, je suis très jaloux de Leicester. Parce que c'est tellement beau, on avait dit tellement beau, parce que ce sont des choses formidables qui arrivent dans les foot de temps en temps. Et je pense que les supporters des autres championnats, on doit être aujourd'hui très jaloux de ne pas avoir une équipe qui met un petit peu de piquant.
David, est-ce que cette équipe, telle qu'elle est, si elle restait comme ça, est-ce qu'il faudrait la redouter en Ligue des Champions ?
Oui, sans doute, parce qu'il n'y a pas de raison que, telle qu'elle est, on fait une fiction.
Elle manquera peut-être un peu d'expérience quand même dans cette compétition.
Ah ben pour aller en finale de Ligue des Champions, oui, certainement.
Mais il manquait pour être champion d'Angleterre.
Ouais, il ne faut pas dire non.
Le fait qu'il soit champion, en plus, leur autorise une entrée en Ligue des Champions dans le premier chapeau. Donc c'est quand même mieux qu'être chapeau 4. N'empêche que dans les chapeaux 2 et chapeau 3, maintenant il y a des très très gros poissons. Le format est peut-être un peu plus ouvert qu'il n'était à l'époque où il y avait deux phases de poules consécutives. Mais oui, pourquoi pas, ça peut marcher. Ça marche.
Faut ouvrir les paris là, parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent.
Souvent on évoque des clubs russes ou ukrainiens ou de ces pays-là qui réussissent de beaux parcours. Après, il y a malgré tout des limites parce que la compétition est très formatée.
Et les équipes anglaises actuellement en Ligue des Champions, c'est pas tout à fait ça. Bruno, une dernière petite question. Les Foxes, est-ce qu'ils vont aller fêter leur titre en Thaïlande alors finalement avec leur riche propriétaire?
Non, à Las Vegas.
Vu ce qui s'est passé l'année dernière. On a du mal à le penser, même si voilà, le propriétaire est quand même...
L'année dernière, il y avait des vidéos intimes, sextape, comme on dit en France, qui avaient circulé de joueurs de l'effectif. Donc, vous le disiez tout à l'heure, ils avaient même été virés. Et là, il va leur faire un petit cadeau thaïlandais.
Il y a des gens mauvais autour de ces micros.
C'est sûr, c'est que la saison passée, pour le maintien du club, le propriétaire avait donné un billet, 1000 livres à chaque membre du club, joueur, staff, à dépenser dans un casino qui était juste à côté du restaurant où ils ont fêté le maintien. Donc peut-être qu'ils iront à Las Vegas jouer dans les casinos.
C'est comme dans nos rédactions.
Il faut se renseigner au PSG.
C'est comme dans nos rédactions, nous donner un petit billet de 1000 dès qu'on fait un truc bien, quoi.
Ah bon, on fait ça au Parisien?
Paris RFI, Annie?
Non.
Ah bon,
malheureusement.
Il n'y a pas de casino à côté de nous.
Merci beaucoup, Bruno Constant, de nous avoir raconté l'histoire du petit poussé anglais sacré roi d'Angleterre. À bientôt, Bruno.
À très bientôt.
Merci. Et voilà, c'était donc cet hommage à Leicester grâce à Bruno Constant. Y aura-t-il une équipe anglaise en finale de la Ligue des Champions qui se disputera donc à la fin du mois de mai en Italie à San Siro? Eh bien, c'est ce qu'on saura demain soir, puisque demain soir aura lieu l'autre demi-finale retour de cette compétition européenne. Il y aura ce match à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et Manchester City, deux équipes qui s'étaient séparées au match aller sur le score de 0-0. Tout reste à faire. Les favoris sont sans doute les merengues, mais cela nous le verrons demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins une équipe de Madrid, et c'est l'Atlético Madrid qui ce soir a écarté le Bayern Munich de cette finale de la Ligue des Champions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à David Finzel que vous avez entendu tout à l'heure, et aussi à Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Et évidemment, tous ensemble, on vous dit à demain. Merci.